VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 14 juillet 2016, en direct de Washington. Idrissa Seydouga et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
Au Gabon, plusieurs personnalités déposent leur candidature pour l'élection présidentielle du mois d'août. Deux partis d'opposition demandent l'invalidation de celle d'Ali Bongo, le président sortant.
L'opération militaire française Sangaris, en République centrafricaine, prendra définitivement fin en octobre, a annoncé hier François Hollande.
Au Soudan du Sud, les États-Unis déploient 40 soldats à Djouba, la capitale.
Au Zimbabwe, victoire du pasteur Evan Mawari, leader du mouvement de contestation. Le juge a refusé sa détention.
En Grande-Bretagne, Boris Johnson, principal meneur des pro-Brexit, a été nommé secrétaire au Foreign Office par la première ministre Theresa May.
Donald Trump annoncera demain le nom de son colistier pour la présidentielle américaine de novembre. Ne manquez pas le journal de la page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Au Gabon, plusieurs personnalités ont déposé leur candidature pour l'élection présidentielle du 27 août. L'opposition a en outre introduit des recours pour contester la validité du dossier du président sortant, Ali Bongo Ondimba. Des détails avec Anastasie Tudiech.
19 dossiers ont été déposés à la date butoir, mardi. Face au président Ali Bongo, 57 ans, plusieurs anciens caciques du régime passés à l'opposition, dont Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine, Guy Nzuba Ndama, ancien président de l'Assemblée nationale, et Casimir Oyemba, ancien premier ministre. Les dossiers de candidature doivent être validés par la commission électorale au plus tard 30 jours avant le scrutin du 27 août. Deux partis d'opposition, l'Union nationale et le Rassemblement Héritage et Modernité, affirment avoir déposé des recours pour contester la candidature d'Ali Bongo, accusé d'avoir falsifié son état civil. Le scrutin est à un seul tour, il y a plus de 628 000 électeurs inscrits, une baisse par rapport à la présidentielle de 2009, pour laquelle ils étaient quelque 813 000. Le ministère de l'Intérieur explique cette différence par la mise en place de listes électorales biométriques en 2013 et la nécessité de tout reprendre à zéro.
Le président François Hollande a annoncé hier que la France mettrait définitivement fin en octobre à son opération militaire Sangaris en Centrafrique. Félix Yepassis Zembrou.
Oui, d'après ce qui a été annoncé hier par le président français, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian se rendra en Centrafrique en octobre pour prononcer officiellement la fin de l'opération Sangaris. En décembre 2013, la France avait envoyé près de 2000 soldats suite à des affrontements meurtriers en Centrafrique. Cette opération compte maintenant quelque 350 soldats. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, élu en février, a déclaré dimanche que son pays était toujours en danger, avec des pans entiers sous le joug de groupes armés. Il s'était alors inquiété du départ des Français qui doivent passer le relais à la mission onusienne, la MINUSCA. Les 12 000 casques bleus de l'ONU seront donc en première ligne pour faire face aux regains de violence en attendant la refondation lointaine de l'armée centrafricaine. Depuis la mi-juin, plus de 6 000 personnes ont fui des violences pour se réfugier au Tchad et au Cameroun. Au début de ce mois, au moins 10 personnes ont été tuées dans des affrontements à Bambari, dans l'est du pays.
Les États-Unis ont déployé une quarantaine de soldats à Djouba, capitale du Soudan du Sud, à la suite des accrochages qui ont fait des centaines de morts et suscité des craintes de reprise de la guerre civile entre les partisans du président Salva Kiir et ceux de son vice-président Riek Machar. Ces troupes ont été envoyées pour protéger l'ambassade américaine et aider à exécuter l'ordre d'évacuation du personnel non essentiel donné par le département d'État américain. Le diplomate américain dans la région, Andrew Burnett, a dit à la Voix de l'Amérique que de hauts responsables américains travaillaient avec les leaders sud-soudanais pour mettre fin à la violence. Le cessez-le-feu, pour l'instant, continue de tenir.
Au Zimbabwe, le pasteur Evan Mawari, leader du mouvement de contestation, a été libéré hier soir à Harare. La justice a rejeté les charges de tentative de renversement du gouvernement. John Linden.
À la sortie du tribunal, Evan Mawari arborait un drapeau zimbabwéen devenu le nouveau symbole de la résistance. Il a été accueilli en héros par ses partisans après la décision du juge rejetant sa détention. D'après Maître Harrison Como, son avocat, le parquet a essayé d'introduire de graves jeux d'accusation de tentatives de renversement du régime. Son client n'a pas été informé de ses charges au poste de police avant d'être présenté à la justice, comme l'exige la procédure. Le juge a donc refusé sa détention. Le pasteur baptiste de 39 ans, inconnu il y a quelques semaines, s'est fait rapidement un nom. En avril, il avait posté sur Internet une vidéo où il dénonçait l'incurie et la corruption du régime de Robert Mugabe. Très actif dans les réseaux sociaux, il fait partie des organisateurs de la grève générale du 6 juillet qui avait paralysé le pays. Il avait été arrêté mardi pour avoir de nouveau appelé à deux journées de débrayage, mais hier, la mobilisation a été très faible.
Le Maroc et l'ONU se sont entendus sur le retour d'une partie du personnel de la mission onusienne au Sahara occidental. Rabat avait expulsé en mars dernier la plupart des experts onusiens. Morgane Guiriec.
L'ONU et Rabat se sont accordés sur le retour de 25 fonctionnaires de la mission de l'ONU au Sahara occidental. L'accord a été conclu suite à la visite en juin d'une délégation onusienne au Maroc. Irrité par des propos du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, lors d'une visite en Algérie, Rabat avait expulsé à la mi-mars la majeure partie de la MINURSO, qui compte 84 experts civils. Réagissant à cette mesure en avril, le Conseil de sécurité avait donné 90 jours au gouvernement marocain pour permettre le retour des experts onusiens. Monsieur Ban avait fait référence à une occupation du Sahara occidental. Rabat considère cette ancienne colonie espagnole annexée en 1975 comme partie intégrante du royaume. Et de leur côté, les indépendantistes sahraouis, soutenus par l'Algérie, réclament un référendum d'autodétermination. La MINURSO a été déployée en 1991 pour veiller non seulement au respect du cessez-le-feu entre le Maroc et le Polisario, mais aussi d'organiser un référendum qui se fait toujours attendre depuis plus de 40 ans.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, le président Barack Obama a déclaré que les États-Unis doivent s'attendre à vivre d'autres tensions entre la police et les communautés le mois prochain, l'année prochaine, pour un certain temps encore. Le président a eu ce qu'on a appelé une conversation de 4 heures à la Maison-Blanche avec des chefs de police, plusieurs gouverneurs et maires, l'attorney général ou ministre de la Justice Loretta Lynch et des membres du mouvement Black Lives Matter. Cette conversation fait suite à une semaine sanglante qui a inclus le meurtre de 5 policiers blancs par un tireur embusqué à Dallas en réaction, selon ces derniers, à la mort de 2 jeunes noirs abattus par la police en Louisiane et dans le Minnesota.
Présidentielle américaine 2016, le candidat républicain Donald Trump annoncera vendredi à New York le nom de son colistier. C'est ce qu'a indiqué le milliardaire sur Twitter, confirmant une information donnée d'abord à CNN par l'homme fort de sa campagne, Paul Manafort. J'annoncerai mon choix pour la vice-présidence vendredi à 11h à Manhattan. Détails suivront, a tweeté mercredi soir Donald Trump. Le candidat, âgé de 70 ans, n'a jamais occupé de fonction élective et avait reconnu qu'il lui fallait quelqu'un à ce poste qui connaisse le monde de la politique.
En Grande-Bretagne, la nouvelle première ministre, Theresa May, n'a pas perdu de temps pour former son gouvernement et entamer la difficile tâche de commencer le retrait effectif de son pays, de l'Union européenne. Une surprise, Boris Johnson, ancien maire de Londres et principal meneur des pro-Brexit, a été nommé secrétaire au Foreign Office. Theresa May a également créé un ministère entièrement dédié au Brexit, dont David Davis, un ancien secrétaire d'État aux affaires européennes, aura la charge.
Les Philippines ont enjoint la Chine aujourd'hui à respecter le jugement international qui invalide les prétentions de Pékin sur l'essentiel de la mer de Chine méridionale. Et elles vont soulever le sujet lors d'un sommet régional imminent. Le ministre philippin des Affaires étrangères, Perfecto Yasay, participe vendredi et samedi au sommet Europe-Asie qui se tient en Mongolie, de même que le premier ministre chinois, Li Keqiang.
En Autriche, un prédicateur musulman considéré comme la figure centrale de la propagande djihadiste dans ce pays a été condamné à 20 ans de réclusion dans la nuit de mercredi à jeudi. Ebou Tejma a été reconnu coupable d'avoir convaincu plusieurs personnes d'aller combattre avec l'organisation État islamique au Moyen-Orient. L'homme de 34 ans, originaire de Bosnie, est coupable d'appartenance à une organisation terroriste et criminelle et d'instigation d'assassinat à caractère terroriste.
Au Venezuela, les soldats surveillaient déjà les supermarchés pour contrer les débordements. Ils gèrent désormais les ports et la distribution de nourriture. Le président Nicolas Maduro, ballotté par la crise économique et menacé par un référendum révocatoire, mise sur l'armée pour se maintenir au pouvoir. Cette institution, puissant acteur politique et économique, vient d'étendre son pouvoir dans cette nation à bout de souffle. Le pays pétrolier, dont l'économie s'est effondrée avec la chute des cours, n'a plus les moyens de financer ses importations, ce qui entraîne de graves pénuries d'aliments et de médicaments.
Au Brésil, le Congrès des députés s'est choisi aujourd'hui comme dirigeant un allié du président par intérim Michel Temer pour succéder à Eduardo Cunha, démissionnaire et fer de lance de la procédure de destitution de la présidente du Brésil, Dilma Rousseff. Le vice-président Michel Temer est devenu président par intérim depuis que le Sénat a suspendu la présidente Dilma Rousseff, accusée de maquillage des comptes publics dans le cadre d'une procédure de destitution.
Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
La Minute Éco, John Linden.
Au Maroc, premier semestre difficile pour la situation économique du royaume. Ahmed Lablimi Alami, patron du Haut Commissariat du Plan, en a fait la révélation au cours d'une conférence de presse à Casablanca. Le PIB du Maroc ne devrait croître que de 1,5% cette année, contre 4,5% en 2015. Selon ses estimations, une reprise est attendue en 2017, avec une croissance anticipée à 3,5%. La justice algérienne a annulé le rachat du groupe de presse El Kabar par l'industriel Izad Rebrad, première fortune du pays, comme le souhaitait le gouvernement. Monsieur Rebrad, patron de Cevital, premier groupe privé algérien et déjà propriétaire du quotidien francophone Liberté, avait mis sur la table plus de 40 millions d'euros pour cette acquisition. Le comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale a indiqué que la croissance économique de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale serait caractérisée cette année par une décélération à 1,7% contre 2,5% en 2015.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Voilà, bonjour.
Bonjour Drissa.
Football, c'est la saison des transferts.
Oui, le défenseur international français Lucas Digne, qui évoluait la saison dernière à l'AS Rome, en prêt du Paris Saint-Germain, s'est engagé pour 5 saisons avec le FC Barcelone. Le Barça a payé 16,5 millions d'euros pour s'attacher les services du latéral gauche de 22 ans. Digne avait rejoint le Paris Saint-Germain en 2013 en provenance de Lille. Et puis le défenseur central bordelais, Cédric Yamberé, a été prêté pour une saison avec option d'achat au club russe d'Anzi Makhachkala. À 25 ans, le joueur d'origine centrafricaine quitte le championnat français après une saison correcte avec les Girondins, 27 matchs et 3 buts. A noter également que le défenseur latéral gauche, Arthur Boca, en fin de contrat à Malaga, s'est engagé avec le FC Sion, c'est du championnat suisse. L'international ivoirien de 33 ans, qui a joué la Coupe du Monde 2010, a signé un contrat d'une année.
On parle à présent de futsal et de l'Inde.
Oui, le Gallois Ryan Giggs va effectuer son retour sur le terrain du futsal en Inde, en compagnie notamment de Ronaldinho, Hernan Crespo et Paul Scholes. Ryan Giggs, âgé de 42 ans, a accroché les crampons en 2014 avant de devenir l'entraîneur adjoint des Red Devils. Il a annoncé le 1er juillet le départ de son club de toujours dont il espérait secrètement devenir le manager. Le Gallois sera le fer de lance de l'équipe de Bombay alors que Ronaldinho mènera Goa. Quant à Scholes, il jouera pour Bangalore.
Tour de France, Froome toujours en jaune.
Allié d'un jour, le Britannique Chris Froome, porteur du maillot jaune, et le Slovaque Peter Sagan, vainqueur au sprint, ont enflammé le final de la 11e étape du Tour de France à Montpellier après une journée de stress pour les favoris. Sur la ligne, Sagan, champion du monde en titre, a devancé Froome et a enlevé son deuxième succès depuis le départ de la Grande Boucle.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. À Gao, dans le nord du Mali, des jeunes sont sortis pour la deuxième journée consécutive hier pour manifester contre les DDR et les autorités intérimaires prévues dans les accords de paix issus du processus d'Alger. Les manifestations précédentes avaient fait 4 morts et plusieurs blessés de Gao, compte rendu de Boubacar Touré.
Les jeunes manifestants ont été soutenus dans leur marche par des ressortissants vivant à l'extérieur, venus pour la circonstance. Madame Koulibaly Ramatamaïga, présidente du collectif des ressortissants du Nord à Paris.
Ces jeunes-là, au jour d'aujourd'hui, sont au chômage, elles sont délaissées. Ils ne peuvent même pas être cantonnés ni insérés dans aucun des dispositifs parce que tout simplement, il fallait que chaque jeune apporte une arme. Nous ne serons pas non plus d'accord par rapport à l'installation des autorités intérimaires. Moi, je suis la présidente du collectif des Maliens de France pour la paix. Il y a mon frère qui est venu des États-Unis. Nous avons d'autres frères qui sont venus du Ghana, d'autres qui sont venus du Togo. Nous sommes venus pour les soutenir.
Amadou Abakar Diho, de ses 25 ans, aspire à avoir du travail.
En tant qu'un citoyen nordicien malien, nous on est là, on a fatigué. Donc aujourd'hui là, Mali, il doit nous récupérer. Tu as vu non? Mali, il ne pense même pas à nous. Donc c'est à cause de ça, nous on est debout. Soit on va mort ou bien c'est fini. Faut que Mali nous donne le travail. En cantonnement, on veut pour cantonner sans amener armes. Les armes qu'on a trouvées, c'est ça qu'on a donné. Et le jour que Mali est venu, on a donné beaucoup d'armes. Donc c'est ça. Nous on veut Mali ne qu'à nous donner le travail. C'est ça on fait.
Comme si les 4 morts et les nombreux blessés ne suffisaient pas, les jeunes sont descendus encore ce mercredi matin dans la rue. Des tirs ont été entendus, un jeune a été grièvement blessé. Cette fois-ci, la revendication des jeunes est le départ de certaines autorités de Gao. Abdou Nasser Idrissa, membre de la commission d'organisation de la marche.
La jeunesse de Gao demande le départ pur et simple de monsieur le gouverneur, le départ du commissaire, le départ du CB, le départ en tout cas de tout cela qui ont assassiné ces jeunes qui n'avaient ni armes, qui n'aspiraient qu'à un droit.
Massaoud Maïga, qui a de quoi à se faire cantonner, pense que cette marche n'a pas son sens.
Tout ça là, ça c'est un désordre. Il y a les malfaiteurs parmi les gens, ils vont profiter à cause des marches, ils vont profiter pour casser les trucs des gens, tu vois. Tout ça là, c'est pas obligé quoi. Nous on a besoin de paix seulement. Ce que les gens aiment, ça ne peut pas se faire. Il y a beaucoup de gens qui ont des armes, ceux qui vont cantonner. On peut cantonner avec son arme, celui qui n'a pas un arme ne peut pas cantonner.
En tout cas, si les experts pensent que c'est le meilleur accord que le Mali puisse obtenir, le gouvernement du Mali a du mal à expliquer clairement le contenu du document pour les populations à la base. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali. Sur 102 FM.
Le président du Burkina Faso est attendu en Côte d'Ivoire à la fin de ce mois. Ce sera la première visite de Marc Christian Kabore en tant que président. Cette visite entre dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Au-delà de l'amitié et aussi du nuage de contentieux qui plane sur les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, cette visite devrait aussi permettre de renforcer les relations économiques entre les deux pays. John Linden a joint à Ouagadougou Rabanki Aboubakr Zida, directeur général des éditions Citoyens.
Je pense que les relations économiques, comme je l'ai dit, au-delà des États, au-delà des frontières, chaque jour, il y a des dizaines, sinon des centaines de camions, de cars qui quittent le Burkina pour la Côte d'Ivoire. Chaque jour, il y a des trains qui circulent entre les deux pays. Chaque jour, il y a des vols, des compagnies aériennes qui amènent des centaines de Burkinabés en Côte d'Ivoire et vice-versa. Donc, ça veut dire qu'au-delà de tout ce qui se passe, de tout ce que les gens voient, les populations, de façon pragmatique, sont en contact. Ils font des échanges et ils travaillent ensemble, surtout dans le cadre de l'UMOA, des entreprises burkinabées qui interviennent en Côte d'Ivoire, des entreprises ivoiriennes qui interviennent au Burkina. Je pense que quand on est à une certaine distance, les gens pensent que les choses sont figées et que voilà, il n'y a pas de contact entre les deux pays. C'est totalement faux. parce qu'au-delà de tout ce qui se passe, j'insiste là-dessus, les populations sont en contact et la vie continue de part et d'autre comme si de rien n'était.
À votre avis, qu'est-ce qui devrait être fait pour renforcer plus encore cette coopération entre les deux pays?
Oui, c'est plutôt jouer la carte de l'apaisement, de la décrispation. Parce que vous savez, nos populations sont ce qu'elles sont. Elles écoutent très souvent les premiers responsables. Et si les populations ont le sentiment que voilà, il n'y a pas de connexion, les deux parties ne sont pas en phase, elles sont un peu inquiètes. Et vous savez que dans notre pays, il y a parfois des agents de police ou de gendarmerie qui jouent la carte du diesel. Pour un oui ou pour un non, on peut poser des actes qui vont remettre en cause la libre circulation dans un sens comme dans un autre.
Et quel devrait être le rôle des médias et notamment des journaux comme celui que vous dirigez dans les deux pays?
C'est de travailler véritablement à apporter l'information, à dire ce qui est, sans verser dans le sensationnalisme, donner l'information de façon sobre pour que les populations sachent véritablement qu'il n'y a rien de définitif, il n'y a rien qu'on ne peut pas solutionner, que les populations sachent qu'il n'y a pas de problème en tant que tel entre le Burkina et la Côte d'Ivoire et que les deux parties sont en contact. Ce concept. Donc, c'est montrer un peu que dans la sous-région ouest-africaine, la Côte d'Ivoire et le Burkina sont un peu comme le moteur de l'UEMOA. Du coup, on est plus ou moins obligé d'aller dans un sens, celui de l'intérêt des populations.
Rabanke Abdou Aboubakr Zida, directeur général des éditions Sidoya au Burkina Faso.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, 99 FM.
Au Burundi, opération Bujumbura Ville Propre, le maire de la capitale, Freddy Monimpa, en a fait sa priorité malgré la crise actuelle. Selon notre correspondant sur place, le chantier est semé d'embûches. Il y a une pénurie de latrines publiques et l'éclairage public est quasi inexistant. Par ailleurs, les déchets ramassés en ville sont abandonnés dans un quartier au nord de la capitale. Reportage de Christophe Kounziza, notre correspondant à Bujumbura.
La longue route goudronnée qui ramène les visiteurs de l'aéroport international de Bujumbura vers le centre-ville, à plus de 10 km, est bordée de poteaux pour éclairage public. Elle est l'une des rares routes du Burundi qui sont éclairées dans la capitale depuis un certain temps. La verdure d'arbustes et de fleurs émerveille les visiteurs. La propriété pour le maire de la ville doit être l'affaire de tous les citadins, même si les latrines et autres endroits d'aisance manquent. Freddy Molimpa veut instituer la politique des pollueurs payants. Mais quand l'on se dirige vers un des quartiers du nord de Bujumbura, les déchets polluent l'environnement et les humains. Cette habitante qui a 7 enfants vient régulièrement chercher le charbon de bois dans ces déchets nauséabonds.
Nous cherchons du charbon dans ces déchets pour avoir de quoi nourrir les enfants. Même si c'est très sale, on n'a pas peur. Il y va de la vie de nos enfants. Nous vendons ce charbon à 300 francs burundais. Ainsi, on peut acheter du poisson de Dagala. C'est vrai que l'on risque d'avoir des maladies avec toute cette saleté. Mais Dieu nous protège. On aimerait que l'on enlève ces saletés, mais c'est difficile pour nous.
Certes, dans les quartiers du nord au sud de la capitale, les routes goudronnées sont rares, mais le pavage des rues de ces localités rend la circulation possible. Bouterelle est devenu le dépotoir attitré de tous les quartiers de la municipalité. Le maire de la ville indique que les choses vont s'améliorer. Freddy Mbonima.
Si on doit s'atteler à la salubrité, on doit penser à tous les quartiers, Buterere inclus. Mais comme toutes les choses ont un début, un développement et une fin, je pense qu'on doit suivre ce processus afin que aussi Buterere trouve une solution durable par rapport au dépotoir de ces déchets. Nous avons un programme de rendre la ville propre, mais il ne faut pas déplacer le problème des centres-villes ou des autres quartiers pour le rendre impossible. Buterere, les dividendes de la paix vont nous permettre à développer tous les quartiers, Buterere compris.
Les autorités burundaises viennent de déclarer le dernier samedi du mois, jour de salubrité sur tout le territoire national, il faut un éclairage public. Le maire de la ville, Molima, en est conscient.
Bujumbura, c'est une ville urbanisée. Bujumbura, nous avons des routes qui ne sont pas vieilles. Tout simplement, il nous faut un entretien régulier. Il nous faut également un éclairage public. Nous sommes en train de voir comment relancer avec la régie des eaux, qui est d'ailleurs favorable à ça, mais qui demande qu'est-ce qui va payer la facture parce que c'est une société commerciale. Nous pensons que d'ici l'année prochaine, tout pourra entrer dans l'ordre.
La ville Bujumbura, située à l'ouest, à proximité du lac Tanganyika, dispose de beaucoup de potentialités touristiques. La ville demeure l'une des villes les plus belles du monde, mais comme l'indiquait une vacancière, beaucoup de défis restent à relever sur bien de plans. Christophe Kourounziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Présidentielle américaine 2016, alors que la campagne s'accélère, une querelle éclate entre une juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, et le candidat républicain présumé, Donald Trump. La controverse soulève des questions d'éthique et divise les juristes. Le point avec Timothée Donangmaï.
La juge Ginsburg, âgée de 83 ans, siège à la Cour suprême depuis sa nomination en 1993 par le président Bill Clinton. Connue pour son franc-parler, elle a déclenché l'ire du candidat républicain présumé Donald Trump en déclarant au New York Times au sujet d'une éventuelle arrivée de Trump à la Maison-Blanche « Je ne peux pas imaginer ce que serait le pays » avant d'ajouter avec un brin d'humour « Il serait peut-être temps d'émigrer en Nouvelle-Zélande ». La réaction de Trump n'a pas tardé. La juge Ginsburg a embarrassé tout le monde en faisant de stupides déclarations politiques à mon sujet, a-t-il écrit sur son compte Twitter, en appelant Mme Ginsburg à démissionner et à présenter des excuses à ses collègues de la Cour.
La sortie de la juge Ginsburg est d'autant plus inhabituelle que les membres de la Cour suprême sont connus pour leur réserve vis-à-vis des débats politiques.
Une réserve qui s'explique notamment par le fait que certaines affaires politiques pourraient atterrir devant eux, ainsi que l'on l'a vu lorsqu'ils ont tranché l'issue de la présidentielle de l'an 2000 en faveur du républicain George W. Bush contre le démocrate Al Gore. Du reste, le code de conduite judiciaire des États-Unis interdit aux juges d'appuyer ouvertement un candidat à un poste public ou de s'opposer à sa candidature. D'autres républicains ont emboîté le pas à Donald Trump pour dénoncer les propos de la juge Ginsburg. Le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, estime que ces remarques sont complètement inappropriées. Le président de la commission judiciaire au Sénat, Chuck Grassley, affirme pour sa part que Mme Ginsburg cause du tort à la Cour lorsqu'elle s'exprime ainsi. D'autres voix se sont élevées pour souligner que la juge Ginsburg est, après tout, une citoyenne américaine comme les autres et que le fait d'exprimer son opinion ne l'empêchera pas de dire le droit. Il faut dire que ces derniers temps, Mme Ginsburg elle-même a affiché une certaine propension à évoquer publiquement divers sujets, y compris ceux liés à la Cour suprême. Ainsi, elle avait précédemment déclaré qu'elle s'attendait à une victoire démocrate dans la course à la Maison-Blanche. Pour le candidat républicain présumé, Donald Trump, c'est une distraction de plus en ce moment où il veut concentrer ses attaques sur son adversaire présumé, Hillary Clinton.
Dans Washington Forum cette semaine, vague de tensions aux États-Unis avec la mort de deux hommes noirs abattus par des policiers. Dallas, le 7 juillet, un tireur embusqué tue cinq policiers en marge d'une manifestation contre les violences policières, justement. Barack Obama se rend sur place. Alors la question raciale est-elle de nouveau relancée aux États-Unis? Quelle unité pour le pays? Il y aura-t-il un autre débat sur le port d'armes? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h temps universel.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. You
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.